bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Arjuna Andrade, Louis Drillon, Ise Sicard et Julien Rosa. À la réalisation Marie Placé, prise de son Emmanuel Morse-Duncan.
Entendez-vous l'écho ? Par Maïlys Besri.
Premier jour de notre série sur les prisons intitulée « Économiser et punir ». Des prisons surpeuplées à la ceinture budgétaire trop serrée, desquelles émane une souffrance générale du personnel et de ses occupants. Si la violence institutionnelle mise en évidence par Michel Foucault est toujours le cœur du débat, on voit pointer au sein du système pénitentiaire des formes de violence économique. Tour à tour, l'Europe et les États-Unis constatent les coûts engendrés par leur politique répressive et font régulièrement appel à des prestataires privés pour remplir des missions naguère réservées aux États. Construction de nouveaux établissements, délégation de services de restauration, de propreté, de maintenance, l'industrie carcérale s'étend et se décline au point de faire l'objet d'un débat sur l'effacement des frontières entre public et privé. Alors que peut-on craindre de ces arbitrages budgétaires ? Remettent-ils en question une mission régalienne au profit du marché ? Quelles conséquences sur les conditions de vie et de travail en prison ? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui jusqu'à 15h. Vous êtes sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho ? Nous allons parler aujourd'hui de la gestion et des finances du système carcéral en compagnie de Guillaume Fard, maître de conférences en économie de la sécurité à Sciences Po Paris et auteur de « Externaliser la sécurité et la défense, un nouveau paradigme, le cas des partenariats publics-privés en France » publié aux éditions Hermann. Également bientôt avec nous dans son studio, en tout cas nous l'espérons, Christian Moana, sociologue et directeur du Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Et à 14h50, vous retrouverez bien sûr les nouvelles de l'écho présentées par Arjuna Andrade. Guillaume Fard, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est vrai que c'est une vieille question que la question qui entoure celle des prisons. Il y a eu quand même des évolutions, notamment d'un point de vue des politiques, depuis les années 80, alors grand tournant libéral économique et tournant aussi pour les prisons.
Pour les prisons également, le tournant auquel vous faites allusion, c'est celui d'un courant de pensée qui est né aux États-Unis dans les années 1970, qui est celui de la nouvelle gestion publique, le New Public Management en anglais, et qui est un courant de pensée qui postule que finalement les services publics devraient s'inspirer des méthodes de gestion du secteur privé. Et parmi ces méthodes, il y aurait des modes de gestion qu'il faudrait emprunter aux entreprises pour gagner en efficacité. Et c'est comme cela que la révision générale des politiques publiques est un mouvement d'inspiration anglo-saxonne et a conduit à la réduction progressive d'un certain nombre de moyens que l'on accordait autrefois aux administrations. Et on demande au secteur privé de se substituer à ces administrations pour assurer un certain nombre de missions. Et parmi ces missions, il y a la gestion des prisons.
Alors, on peut pas ne pas y voir une sorte de parti pris idéologique aussi lié à ce tournant aussi libéral que l'on a pu observer en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, même si en France, le débat est un peu plus compliqué. Christian Moana, bonjour. Vous venez de faire votre entrée dans ce studio. On parle justement de l'évolution des politiques pénitentiaires au moment des années 80. Je vous propose d'écouter Pierre Mazeau qui s'exprime sur le projet de loi sur les prisons privées. C'était dans Interactualité le 22 octobre 86.
Les avantages, c'est incontestablement que les réalisations immobilières de tels équipements se font plus rapidement. Nous avons vu, bien sûr ce sont des expériences, des établissements pénitentiaires qui ont été réalisés et dont la gestion a débuté à peine au bout d'un an de la pose de la première pierre. Il y a d'autres avantages, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de fonds publics et que l'administration pénitentiaire n'a donc pas à trouver les capitaux nécessaires pour de telles réalisations. Pour ce qui est des inconvénients, je dirais qu'il est vrai que ça pose un certain nombre de problèmes, notamment des problèmes d'ordre constitutionnel ou législatif, en vertu de quoi le secteur privé pourrait assurer lui-même la surveillance, voire les sanctions disciplinaires. À message répond que nous pouvons avoir un certain nombre de garde-fous en France, comme on a à l'heure actuelle aux États-Unis, où le secteur public conserve quand même une certaine tutelle sur le secteur privé, notamment par le régime disciplinaire et par les sanctions. Nous pourrions rigoureusement avoir la même chose, mais surtout, et ça j'y tiens, car ce serait un inconvénient grave, il faut que le personnel du secteur privé soit formé comme le personnel du secteur public, c'est-à-dire qu'il y ait la même formation.
Christian Moinet, alors est-ce qu'on assiste là justement à un tournant politique ? Est-ce qu'il y aurait une sorte de sanctuaire de l'administration publique qui garantirait justement cette mission régalienne, même si cette mission en elle-même des prisons de service public est aussi discutée, a été beaucoup discutée. Est-ce qu'il y aurait un sanctuaire qui aurait été remis en cause ?
Oui, alors c'est une question, comme le montre votre extrait, c'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Déjà dans les années 80, au moment où il y a les premiers programmes de privatisation, à l'époque d'Albin Chalandon, le programme 13 000, on nous parle déjà il y a déjà ce débat entre la privatisation, jusqu'où doit-on privatiser ? Jusqu'ici, on est dans un système où on privatise d'abord la construction, enfin on y reviendra peut-être à travers les partenariats publics-privés. On a privatiser une partie des services attenants, la cantine, la blanchisserie, etc., le travail pénitentiaire. On n'a pas encore touché à ce qui apparaît encore relativement préservé aujourd'hui, qui est la surveillance, qui est toujours exercée par des gardiens, des surveillants qui appartiennent à l'administration pénitentiaire, la réinsertion, etc. Donc on a toujours un contrôle de l'État sur une partie, enfin sur la partie la plus importante de ses missions d'exécution de la peine, comme on dit. Mais il n'est pas interdit de penser à une remise en cause, comme l'ont montré les États-Unis ou d'autres pays. Alors avec deux problèmes, le coût, hein, il y a un rapport de la Cour des comptes très récemment, décembre 2017, qui nous a expliqué que le coût de la construction, le coût de la gestion était plus important en cas de privatisation. Et puis l'autre aspect, c'est un aspect alors qu'on peut qualifier d'idéologique ou qu'on peut, qui pose des questions de fond en tout cas, qui sont est-ce qu'on peut confier à un secteur marchand des missions de réinsertion. Et notamment, on voit, les débats se sont posés au moment de la loi Taubira.
Avec un double niveau, un nouveau éthique, un nouveau économique, et parfois complètement intriqué, puisque justement, Christiane Taubira a mené cette discussion en tant que ministre de la Justice sur la question de la longévité aussi de certains
Absolument,
contrats.
Parce qu'à partir du moment où il y a un marché, hein, la fameuse loi de l'offre, s'il y a un marché pénitentiaire, forcément, va avoir tendance à remplir les prisons. Et on l'a vu, quand on a construit de nouvelles prisons, on voit, la pénitentiaire vous dit quand elle l'inaugure que ça va durer, qu'on a 4-5 ans de marge. Et en fait, on voit que ça crée pour le coup un appel d'air. Cette expression est valable en tout cas dans le milieu pénitentiaire. À chaque fois qu'il y a une nouvelle prison qui est inaugurée, elle se remplit très vite parce que les juges ont moins de réticence à condamner et aussi parce qu'on a plein de condamnations en suspens que la justice fait exécuter. Donc, là, dans ce cadre-là, on peut pas raisonner uniquement comme s'il y avait un marché. Et puis, il y a aussi une idéologie, il y a des choix politiques,
alors
il y a
justement,
des choix
sur
sociaux.
Voilà. Sur cette idéologie, Guillaume Fard, qu'est-ce qu'on peut dire de 1986 ? Pierre Mazeau, c'est aussi un député RPR qui s'exprime sur cette loi. Alors, quand il nous dit les avantages et les inconvénients du privé et du public, alors qu'est-ce qu'on savait de cela à l'époque, puisqu'on a mis beaucoup de temps à pouvoir avoir des analyses précises et des études précises sur ces questions ?
Il y a une question de fond, presque philosophique, hein, qui est de s'interroger sur est-ce qu'il existe des services qui doivent être intrinsèquement publics ? Est-ce
qu'il y a des le sanctuaire, le fameux sanctuaire.
Est-ce qu'il y a des services qui, par nature, ne pourraient être confiés qu'à la personne publique en raison de leur spécificité et en raison du service qui est offert à la population. Ça, c'est le débat philosophique. Alors après, que l'on soit étatiste ou libéral, nécessairement, on va pencher d'un côté ou de l'autre. Les étatistes vont avoir tendance à considérer que, par principe, presque tout devrait relever, tous les services devraient presque relever des administrations publiques. Inversement, les libéraux vont considérer que l'état minimal, c'est un horizon vers lequel il faudrait s'acheminer.
Alors, on sait qu'il y a aussi des retombées économiques, parce que même les libéraux seront d'accord pour dire que des entreprises privées ont pour but le profit et que donc ce profit-là peut, d'un certain côté, remettre en cause l'idée selon laquelle, parce que c'est du domaine du privé, ce serait moins cher pour les finances publiques.
C'est effectivement ce qu'ils disent. Pour une raison simple, c'est qu'ils considèrent qu'il existe des prestations pour lesquelles une offre privée a cours. Par exemple, la restauration, par exemple, la blanchisserie, par exemple, l'entretien et la maintenance de bâtiments. Pour toutes ces prestations que je vous cite, il existe une offre privée. Et donc, ceux qui préconisent alors, l'externalisation, parce qu'en réalité, le bon terme économique, c'est externalisation plutôt que privatisation. La privatisation suppose un acte de vente à proprement parler. Hein. Mais lorsqu'on préconise l'externalisation...
De certains services,
que le Conseil constitutionnel qualifie de techniquement détachable, c'est les fameuses prestations techniques détachables. C'est-à-dire le Conseil constitutionnel considère que le service public pourrait presque être désossé par bout et par morceau et que certains morceaux pourraient être, dans certaines conditions, confiés au secteur privé.
Ce qui ne relève pas de la mission pure, à savoir justement...
Exactement, mais reste à définir quelles sont les missions qui, et ça c'est de la philosophie politique, c'est un choix de société, devraient être confiées par nature aux administrations. Pour les autres, il existerait une offre privée, et donc dans certains cas, le secteur privé pourrait faire moins cher.
En tout cas, il pourrait y avoir une concurrence.
En tout cas, il pourrait être mis en concurrence, mais ce qui fait que ce serait moins cher, c'est pas tellement la mise en concurrence, c'est le fait que le secteur privé peut jouer sur des plus gros volumes qu'une administration. Je vous donne un exemple, les pièces de rechange. Quand le secteur privé gère plusieurs sites et que l'administration en gère par définition moins, ben il peut avoir des coûts et des économies d'échelle qui sont plus intéressants parce qu'il va jouer sur la variété des fournisseurs. Donc c'est sur certaines opérations de maintenance, c'est sur certains marchés sur lesquels il existe une offre privée où des comparaisons peuvent être possibles.
Alors il va y avoir une autre question qui est liée en réalité aux questions de politique de l'époque aussi, c'est qu'il y a peu à peu une augmentation du nombre de détenus en France et ailleurs, dû à un certain nombre d'événements. Alors, dans les dernières années, on fait allusion aux questions de terrorisme, mais il y en a eu d'autres, qui fait que la question de l'occupation des prisons et de la surpopulation est une question récurrente auquel le privé apporterait peut-être une réponse. Ça fait partie des pistes politiques.
Il y a deux aspects. Enfin, alors déjà, c'est pas le terrorisme qui représente, je veux dire, heureusement, la grande masse des prisonniers, on est plutôt dans ce qu'on appellerait la petite et moyenne délinquance.
Ça ferait partie des causes mises en avant.
Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de voir aussi qu'il y a des choix. Notamment, on parle beaucoup actuellement de l'exécution des petites peines de prison, puisque on sait qu'une grosse partie des gens qui sont détenus, en fait, sont là pour moins d'un an, moins de six mois. On arrive à 75%, 78% des gens qui ont été libérés en 2014, derniers chiffres dont je dispose, ont été incarcérés, ont passé moins d'un an en prison. Donc on est sur des petites peines et on a 33% de la population à peu près qui est restée moins de 3 mois.
Et ça, c'est un phénomène qui aurait évolué dans le temps?
Alors
qui serait
ça
a
évolué
phénomène...
dans le temps. On voit qu'il y a beaucoup plus de petites peines qui sont exécutées. On voit que c'est quelque chose qui s'accentue parce que contrairement à ce qu'on croit, ce ne sont pas les longues peines. Enfin, les longues peines de prison augmentent, mais elles représentent un pourcentage relativement faible de la population incarcérée. On a à peu près 70 000 personnes à un moment T donné, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas quelque chose de statique. Les gens rentrent et sortent en prison, en quelque sorte. On a environ 96 000 personnes qui rentrent par an en prison, et à peu près l'équivalent qui ressort. Donc il faut imaginer ce vaste mouvement. Et c'est là où la loi Taubira, mais d'autres personnes réfléchissent depuis un certain temps, est-ce que ça vaut le coup de construire des nouvelles prisons pour laisser les gens si peu de temps dans la prison? Est-ce qu'il n'y a pas des façons de traiter autrement cette population? D'autant, et c'est l'un des arguments forts, c'est que la prison, apparemment, le passage en prison n'arrange en rien les taux de récidive. Donc, autant que les gens soient dans un autre système, soit par exemple en travail d'intérêt général, c'est l'un des arguments développés actuellement par le gouvernement, il y a d'autres méthodes de suivi, il y a le bracelet électronique, il y a plein d'autres choses, ou des amendes, ou d'autres formes de réparation à la société qui permettent d'éviter la prison. Le problème est s'il y a un marché qui rentre, si par exemple il y a une prison et que si le taux d'occupation est plus faible que celui prévu, il y a des pénalités qui sont prévues, donc le gouvernement peut être tenté de faire des lois pour éviter d'avoir à payer ces pénalités.
Alors, il faut expliquer ce phénomène. Pourquoi est-ce qu'il y a des pénalités? Peut-être, Guillaume Fard, vous allez prendre le relais sur cette question.
Alors, peut-être expliquer même le principe même d'un partenariat public-privé. En fait, le partenariat public-privé, pour l'expliquer très simplement, c'est le financement privé d'infrastructures publiques. Donc, on demande au secteur privé de trouver une source de financement pour la construction d'infrastructures que lui ensuite va avoir à gérer pendant toute la durée de vie du contrat. Et cette durée de vie correspond à l'amortissement amortissement, en fait, de l'investissement. D'où le fait qu'on ait des contrats qui, dans certains cas, durent 25 ans, 30 ans. Pas une justice de Paris. Le contrat s'arrêtera en 2044. Donc, ça vous donne une idée de la profondeur de temps de ce type de contrat.
Donc, pour simplifier, le prestataire privé prend à sa charge la somme de départ et puis l'État paye une sorte de loyer.
C'est ça. C'est exactement ça. Pour prendre une métaphore très simple, vous ne pouvez pas ou vous ne souhaitez pas acquérir vous-même votre automobile, vous venez me voir, je trouve une solution de financement auprès d'un organisme de crédit et je m'occupe de vous la mettre à disposition et vous ne payez un loyer que lorsque vous consommez l'usage de cette automobile. Alors c'est très bien pour les biens mobiliers, c'est plus difficile pour les biens immobiliers qui par définition sont plus difficilement mutualisables et puis vous en avez besoin en permanence. Vous ne pouvez pas dire qu'à un moment donné vous allez cesser d'utiliser une prison, un établissement pénitentiaire, ça fonctionne 7 jours sur 7 et c'est très difficile de le mutualiser avec autre chose. Vous n'allez pas faire venir des gens pour un centre de conférence ou pour organiser des nuitées d'hôtel ou que sais-je. Ce n'est pas possible dans ce cas-là. Donc vous avez des loyers.
Ça veut dire aussi que dès le départ, vous partez du principe qu'il va y avoir à peu près tel taux d'occupation pour les prisons. Vous allez calculer un budget, d'où le risque, si le taux d'occupation n'est pas rempli, de devoir à ce moment-là payer des pénalités.
Alors, en tout cas, vous calculez un taux d'utilisation. Et ça rigidifie énormément la relation contractuelle parce que vous payez un loyer qui lui est fixe, quelle que soit l'évolution de votre besoin dans le temps. Et pour ce qui est des pénalités, en fait, tout dépend comment le contrat est négocié. Et ce dont on se rend compte, c'est que les administrations sont souvent moins bien armées que leurs partenaires privés, notamment en termes de conseils juridiques et financiers, et que beaucoup des contrats qui ont été conclus sont au désavantage des administrations, et que lorsqu'on est en phase d'exécution du contrat et que des opérations, notamment d'entretien, maintenance voit le jour, il arrive assez fréquemment, il faut le constater, que le secteur privé vienne opposer à l'administration des clauses contractuelles qui avaient été mal négociées en lui demandant de payer plus cher que ce qui avait été envisagé pour certaines opérations de maintenance. Et c'est précisément ce que pointe la Cour des comptes dans son rapport qui a été publié en fin d'année dernière.
Alors ça a fait naître deux types de critiques, Christian Moinet. La première, le coût pour l'administration au final qu'ont représenté ces nouveaux services ou la construction de prisons, puisque parfois c'est carrément ça aussi qui est pris en charge. Ou alors, et d'un autre côté, les générations futures qui se retrouveraient, alors génération tout court ou génération de politique, engagées dans des contrats à durée très très long.
C'est d'autant plus vrai qu'en plus, le ministère de la Justice est un ministère relativement pauvre par rapport à d'autres ministères. Ça représente un budget, je crois, de 4 milliards ou quelque chose comme ça, dont une grosse partie, finalement, est déjà préempté en quelque sorte dans les années futures, enfin en tout cas est déjà engagé par tous ces engagements, alors que représentent les palais de justice, c'est pas le problème ici, mais ça fait partie de la dette, et en tout cas toutes ces prisons, avec encore une fois, là où ça a un impact sur le politique, c'est que ça risque d'avoir une influence sur la façon dont sont faits un certain nombre de choix politiques. On voit par exemple qu'aux Pays-Bas a été décidée une politique de vidage, le mot est pas très beau, mais enfin, des prisons, en fait, de politique pénale qui limite très fortement le nombre de personnes incarcérées. Le taux d'incarcération a chuté très rapidement en quelques années. Les prisons se sont vidées, tant et si bien que les Pays-Bas louent des prisons à la Belgique qui, elle, a une politique de qui a une surpopulation carcérale. Donc, on se retrouve, si on est engagé comme ça dans des financements, à devoir payer et fatalement, ça va avoir une influence sur les décisions politiques.
Donc des politiques soumises quand même aux engagements de contrat.
Soumises à des impératifs financiers. On ne peut pas séparer d'un côté le financier, l'économique et le politique. C'est une illusion. Les deux sont extrêmement imbriqués. On voit comment des tas de réponses politiques à des problèmes sont en quelque sorte bloquées par les pesanteurs financières, les contraintes économiques et financières qui pèsent sur ces politiques.
Guillaume Fard, au moment des années 80 et puis au fur et à mesure des années 2000, la question des partenariats, de modèles mixtes économiques pour pallier aux problèmes de surpopulation des prisons pour lesquels la France était régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme liée au manque de dignité des conditions de vie des prisonniers, apparaissait comme peut-être une des solutions.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que le problème auquel faisaient face les ministres de la justice successifs était celui de la surpopulation carcérale. Après, certains...
Avec des taux qu'on pourrait peut-être un peu citer.
On peut les citer. C'est en maison d'arrêt, hein, essentiellement, que ces taux sont problématiques. C'est ce à quoi faisait allusion M. Moinet tout à l'heure. C'est que pour les détenus de courte peine, en réalité, donc en maison d'arrêt, pour des peines inférieures à 5 ans, on a des taux de surpopulation qui sont à des niveaux peu acceptables.
Autour de 140%.
140%, et ça peut monter au-delà de 160% sur la plaque parisienne. Donc ce sont des taux qui sont très préoccupants. Vous ajoutez à cela le fait qu'il y a relativement peu de gardiens de prison en France comparé à d'autres États européens. Un gardien pour 2,4 détenus en France, alors que c'est un gardien pour 1,7 détenu en Allemagne, par exemple. Donc vous voyez que l'administration pénitentiaire est quand même mal dotée.
Alors le manque de gardiens lié au budget de l'État ou lié au manque justement d'attrait de la profession, étant donné les difficultés de conditions de travail.
C'est un cercle vicieux. Vous avez peu de moyens, les conditions de travail sont difficiles. Comme elles sont difficiles, c'est une profession qui est peu attractive. Donc on en revient au défaut général d'investissement. Alors maintenant, pourquoi est-ce que la solution du partenariat public-privé a été envisagée? Pas qu'en France, en Grande-Bretagne, au Canada ou dans d'autres États occidentaux. Il y a un choix politique face à une alternative qui est de dire que devant un besoin de financement d'une infrastructure, vous avez deux options. Soit vous choisissez de la financer avec des crédits publics, et à ce moment-là, vous avez deux possibilités. Soit vous augmentez les impôts pour avoir des recettes fiscales et ensuite acquérir ces infrastructures, soit vous vous endettez. En tant qu'administration, l'État s'endette, notamment sur les marchés financiers. Donc, ou vous levez des impôts, ou vous créez de la dette. Et ça, ce sont les deux seuls modes de financement public. Pour des raisons politiques, vous pouvez refuser ces deux options. Vous pouvez refuser d'augmenter les impôts, parce que vous estimez que c'est peu populaire. Vous pouvez refuser d'augmenter la dette publique, parce que vous seriez tenu, par exemple, par des critères de convergence, notamment les critères maastrichtiens. Donc, il reste une troisième alternative que ont d'abord expérimenté les anglo-saxons, qui est d'avoir recours à du financement privé, qui présente cet avantage, un peu comme celui du crédit à la consommation pour un particulier. Au départ, c'est indolore. Vous vous endettez, vous recevez immédiatement ce dont vous avez besoin. Le particulier qui voudrait acheter un téléviseur, il appelle une société de crédit à la consommation. Le lendemain, le téléviseur est dans son salon. Et puis après...
C'est au final qu'il se rend compte qu'il a payé très cher.
Il paye beaucoup plus cher. Et puis l'accumulation dans le temps peut conduire à des phénomènes qu'on appelle en économie de strangulation budgétaire. C'est-à-dire que la charge des intérêts de la dette devient très lourde et vient obérer toutes vos marges de manœuvre budgétaires. Et c'est ce qu'on expérimente.
Alors, petite parenthèse, Christian Moana, d'un point de vue politique, la question des prisons, du financement des prisons, est aussi une question assez épineuse, qui écartèle beaucoup sur l'échiquier politique.
Mmh. Mais qui pose aussi la question de l'efficacité de la prison. C'est quand même la question qui ne se pose pas.
La question foucauldienne qui était posée au début.
Voilà, qui en tout cas n'a pas été assez posée jusqu'à Christiane Taubira, puisqu'il faut lui reconnaître ce mérite, c'est d'avoir posé concrètement cette question-là à travers la mise en place d'une conférence de consensus au préalable à sa loi. La question, c'est à quoi doit servir la prison? Si on peut être comme de certains États américains à une époque, la loi du three strikes and you're out, trois petits délits, trois vols à l'étalage et vous étiez condamné à la prison à vie. On est en train de revenir dessus dans plusieurs États américains parce que ça coûte trop cher. Et effectivement, il y a les choix budgétaires, mais en amont, il y a des choix politiques, des choix d'orientation politique qui sont importants. Actuellement, ce qu'on voit, c'est que la prison n'est pas efficace pour lutter contre la récidive. Et c'est quand même l'un des enjeux essentiels qu'on fixe à la prison, que la loi fixe d'ailleurs à la prison, c'est de lutter contre la récidive, c'est de permettre normalement la réinsertion. Or, on voit, et là, ça nous amène au-delà de la réflexion uniquement sur l'immobilier, ça nous amène à réfléchir sur le coût de la réinsertion. Ça nécessite non pas des murs simplement et du logement et de l'hébergement, mais aussi des personnels qui soient capables de prendre en main les personnes qui ont été condamnées, d'analyser pourquoi elles sont là, s'il y a des causes sociales, s'il y a des problèmes d'insertion, s'il y a des problèmes psychiatriques et autres, et de les orienter vers des structures qui permettent de les sortir de cet état de délinquance, ou en tout cas de les sortir des conditions qui favorisent l'état de délinquance. Et c'est là-dessus qu'on a besoin de réfléchir. Et c'est vrai qu'il y a un coût, mais si on voulait intégrer globalement des coûts, il ne faut pas s'arrêter uniquement au coût de l'immobilier pénitentiaire, mais aussi intégrer au coût social, au coût humain, au coût en termes de récidive. On parle souvent de la prison comme école du crime, sans dire que c'est systématique. On voit bien comment la promiscuité de personnes un peu fragiles peut permettre de construire des réseaux, des recrutements. Je vous renvoie au film, par exemple, Le Prophète, qui décrit bien ce phénomène-là. Comment des petits délinquants ou des gens qui sont là parce qu'ils ont commis un certain nombre de délits pour parce qu'ils sont addictifs à la toxicomanie ou à l'alcool, se retrouvent à côtoyer des gens qui sont des délinquants chevronnés, avec toutes les opportunités que ça représente.
Alors Guillaume Fard, effectivement, là, c'est là que le bât blesse, l'évaluation du coût social, du coût total, c'est-à-dire s'il fallait penser la santé, la réinsertion, le coût global, et même comparer ce qui est comparable entre les prestations offertes par le service public et celles par le service public privé, d'un point de vue qualitatif aussi, pas simplement quantitatif.
Ce que dit la Cour des comptes, mais c'est pas la première fois qu'elle le dit, elle l'avait dit également pour l'immobilier du ministère de la Défense.
Alors
notamment.
Peut-être qu'on peut faire un petit historique de ces décisions, justement.
Oui. Disons qu'à des moments de l'histoire de notre pays, et c'est notamment à partir de 2001-2002 et après, a fortiori, lors de la mise en œuvre de la révision générale des politiques publiques, que le recours au partenariat public-privé en France s'intensifie. L'ordonnance qui crée le contrat de partenariat public-privé en droit français, elle date du 17 juin 2004. Et donc on a une phase qui est la décennie 2002-2012, où on a une inflation du recours au partenariat public-privé dans notre pays.
Avec une inflation du nombre de prisonniers, les corollaires.
Aussi, absolument. Recours au partenariat public-privé, tout secteur de l'immobilier confondu, ce sont les collectivités territoriales qui majoritairement ont eu recours à ce type de montage contractuel. Et au niveau des administrations de l'État, c'est d'abord le ministère de la Défense et en deuxième lieu le ministère de la Justice.
Alors qu'est-ce qui a été externalisé en premier ?
Ce que l'on a externalisé, c'est massivement des dépenses immobilières. C'est-à-dire que le choix qui a été fait par les administrations, c'était de ne pas augmenter la dette public. Et pour autant, il y avait un besoin de financement d'infrastructures immobilières, parce que il y avait le problème de surpopulation carcérale, mais au sein du ministère de la Défense, si on compare, vous aviez des situations où les infrastructures immobilières étaient en mauvais état et il fallait financer leur rénovation ou reconstruire à neuf. C'était vrai aussi pour le ministère de l'Intérieur et l'état qui reste préoccupant des casernes de gendarmerie. Donc, dans tous ces cas-là, on a eu recours au secteur privé. Mais il fallait pas perdre de vue que tout cela n'est qu'une forme d'illusion, parce que très vite, ces ouvrages sont disponibles, sortent de terre. Vous accélérez les délais de construction. Pourquoi est-ce que vous accélérez les délais de construction ? Parce que vous trouvez du financement privé et parce que l'opérateur de construction ne commence à être payé que lors de la phase d'exploitation. Donc il va avoir tendance à tenir les délais et à compresser les délais de construction. Parce que tant que l'ouvrage n'est pas sorti de terre, il ne gagne pas d'argent.
Il a fait un investissement.
Bien sûr. Et donc ça. Et alors pourquoi je dis que c'est une illusion ? Parce que l'argent public coûte toujours moins cher que l'argent privé. Ça aussi, il faut le garder à l'esprit. L'État, parce que sa signature est réputée plus fiable, lorsqu'il s'endette sur les marchés financiers, s'endettera à des taux qui seront toujours inférieurs à ceux que pourraient trouver des groupes industriels privés. Donc vous avez un biais de départ qui est que, par principe, le partenariat public-privé va coûter plus cher sur le volet financement. Et donc,
mais ce qui n'apparaît pas sur les budgets, puisque l'État ne s'endette pas pour faire l'acquisition de ce nouveau centre pénitentiaire.
C'est là où il y a une petite subtilité, c'est qu'au début de l'aventure du partenariat public-privé, les loyers que payait l'État étaient comptés comme des dépenses de fonctionnement et pas comme des dépenses d'investissement, jusqu'à ce que Eurostat siffle la fin de la récréation sur cet artifice et dise que les loyers allaient être consolidés, en tout cas pour la part qui correspondait à un remboursement de l'investissement, et être additionné et comptabilisé dans la comptabilité de la dette. Donc, quand vous payez un loyer dans un partenariat public-privé, vous payez deux choses. Vous payez le remboursement de l'investissement et vous payez du service. Et donc, pour que le partenariat public-privé soit avantageux, il faut que la part service vous permette de réaliser une économie. Mais reste un problème, qui est effectivement celui que vous soulevez, c'est comment calcule-t-on cette économie ? Pour la calculer, il faut des ordres de grandeur comparables. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir calculer effectivement le niveau du coût d'un service au sein d'une administration et le niveau du coût d'un service apporté par le secteur privé. Sauf que ce que dit la Cour des comptes, rapport après rapport, c'est qu'il n'existe pas de comptabilité analytique au sein des administrations et que donc cela pose un énorme problème de comparaison, parce que comme on ne calcule pas en coût complet ce que coûte la production, le fait de délivrer un service public, bien c'est très difficile à posteriori de dire « Ah oui, mais au niveau privé, ça coûterait moins cher. »
Christian Monin, on a ce problème d'interprétation. Il faudrait des indicateurs précis qui permettent de comparer des situations comparables. Alors, on peut comparer l'état d'une prison quand elle était à 100% publique et quand elle devient l'objet d'un partenariat public-privé. Mais est-ce qu'on compare des situations comparables? On n'en sait rien.
C'est très difficile. Enfin, vous parliez tout à l'heure de la révision générale des politiques publiques, donc qui a émergé en 2001-2002. À chaque fois est associé à toute politique un certain nombre d'indicateurs. Et on voit que ces indicateurs peuvent avoir des effets très pervers sur les institutions, alors notamment la police. On a beaucoup parlé de la culture du chiffre dans la police. On peut en parler aussi dans les tribunaux, où ce qui a dominé, c'est l'idée de taux de réponse pénale. On peut en parler. Alors la pénitentiaire, de ce point de vue-là, s'en est mieux sortie, puisqu'il y a, parmi les indicateurs de sa politique, un taux de réinsertion. On n'est pas uniquement dans des exécutions de peine. Mais néanmoins, on voit quelle est la difficulté de construire des indicateurs fiables, comparables, alors que ce soit du point de vue économique, mais aussi du point de vue des politiques publiques en général. Comment calcule-t-on qu'une personne est définitivement sortie de la délinquance? Comment calcule-t-on un taux de réinsertion, hein? Comment calcule-t-on l'efficacité de la prévention par rapport à la répression? Tout ça nous a amené à des politiques répressives. Il faut quand même voir que tous ces indicateurs ont favorisé des politiques répressives. Donc c'est un vrai problème.
Oh la douceur du bagne, impossible et lointain, oh le ciel de la belle, oh la mer et les palmes. Les matins transparents, les soirs fous, les nuits calmes. Oh, les cheveux tondus et les peaux de satin. Rêvons ensemble, amour, à quelques durs amants, grands comme l'univers, mais le corps taché d'ombre. Il nous bouclera nu dans ses auberges sombres. Entre ses cuisses d'or, sur son ventre fumant, un mac éblouissant, taillé dans un archange, bandant sur les bouquets d'œillets et de jasmin. Que porteront tremblant tes lumineuses mains? Sur son auguste flanc, ton baiser dérange.
Écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, par Maïlys Bessery.
Le nombre de détenus en détention provisoire, donc présumés innocents, a passé le seuil des 20 000. Il représente maintenant un tiers des détenus, alors qu'il représentait l'année dernière un quart, ce qui met à néant le fait que, soi-disant, la justice serait laxiste. La justice n'a jamais été aussi sévère qu'en ce moment. Je pense que, bien sûr, il faut construire des nouvelles places de prison, mais que cette course à l'inflation carcérale n'est pas une bonne solution. Un exemple, depuis 25 ans, 30 000 places nouvelles ont été construites. C'est-à-dire que, grosso modo, en 25 ans, on a doublé le nombre de places de prison. Et on n'a jamais atteint un seuil de surpopulation carcérale aussi important, qui frôle les 200% dans de nombreux établissements. Donc moi, je propose qu'il y ait une politique plus dynamique en matière d'aménagement de peine, d'alternative à l'incarcération. Les dispositifs législatifs, maintenant, ils sont là. Ce qui est très regrettable, c'est que ces mesures n'aient pas été appropriées par les magistrats pour le moment.
Alors, entendez Adeline Azon, contrôleur général des prisons, s'exprimer sur France Inter le 22 mars 2017. Guillaume Fard, les questions économiques et les questions de coûts reposent ces questions éthiques qui avaient été posées il y a quelque temps par Michel Foucault et bien d'autres, à savoir la question de vider les prisons.
Mais en tout cas,
peut-être pour des mauvaises raisons, pour des raisons pas très avouables, mais le fait est qu'une journée de détention coûte 103,67 € et une journée en bracelet coûte 10,98 €.
Oui, et pour autant, l'effort qui avait été fait sur les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, je rappelle que le gouvernement précédent, et notamment le garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas, avait augmenté quand même de 50% hein, les effectifs des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Il était prévu qu'ils soient d'ailleurs qualifiés d'agents de catégorie B en agents de catégorie A. Tout cela a été abandonné par au moins temporairement par Nicole Belloubet. Effectivement, l'incarcération coûte très cher. Ça coûte cher et lorsqu'en plus il s'agit de construire des établissements supplémentaires, rares sont les élus qui se bousculent pour accueillir ces établissements sur leur commune. Une des raisons pour lesquelles le recours au partenariat public-privé a pu être encouragé, c'est parce qu'on voulait compresser la phase de construction, le temps nécessaire à la construction d'établissements pénitentiaires. Parce qu'en fait, vous avez deux phases. Vous avez une phase vraiment de prospection, où il faut rechercher des terrains, et une fois que vous avez identifié ces terrains, vous avez, à proprement parler, une phase de construction. Et l'idée était de dire, on va gagner du temps sur la phase de construction, et le partenariat public-privé va nous aider à aller plus vite. Ce qu'a fait le garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas, lorsqu'il avait lancé ce plan de construction de prison, qui était monté jusqu'à 16 000 places, avant que Nicole Belloubet, elle n'annonce 7000 places, mais lui était monté jusqu'à 16000. Et en avril 2017, il avait identifié jusqu'à 85% des terrains. C'est qu'il a fait du temps de prospection un temps politique, c'est-à-dire qu'il a appelé, enfin son cabinet, a appelé les maires pour identifier ces terrains-là et gagner du temps. Parce que le temps de construction à proprement parler, l'état du marché de la construction en France et le fait qu'il y a très peu d'acteurs au fond qui sont capables de construire des établissements pénitentiaires, fait qu'il faut au moins 3 bonnes années entre le moment où vous avez identifié le terrain et vous attribuez un marché de construction à un entrepreneur de travaux et le moment où il peut effectivement vous livrer l'établissement pénitentiaire.
Christian Moinat, sur les questions économiques qui nourrissent finalement des alternatives à l'emprisonnement. Alors le bracelet électronique fait partie des emprisonnements, mais alors avec un petit bémol, c'est que les surveillances, alors que ça n'est pas le cas en prison, c'est une mission régalienne, la surveillance avec les bracelets électroniques est déléguée aussi au secteur privé.
Oui, mais alors la difficulté, elle est là aussi parce qu'on parle d'une augmentation du nombre de conseillers d'insertion et de probation qui sont les personnes qui suivent les gens condamnés à des peines hors de prison. Je rappelle qu'on peut être condamné sursis avec mise à l'épreuve ou libération conditionnelle ou dans d'autres cadres à être dehors, mais à subir un certain nombre d'obligations. Obligation de se former, obligation de suivre des stages, obligation de rembourser la victime, par exemple, et un certain nombre d'interdictions. Donc on a 170 000 personnes, à peu près, hein, rapportées aux 90 000 personnes qui sont écrouées, on a 170 000 personnes qui sont suivies en milieu ouvert. Alors quand on nous dit qu'il y a eu des recrutements de conseillers d'insertion et de probation, certes, mais si on voulait vraiment un encadrement très fort, il en faudrait beaucoup plus. Donc là aussi, on a des... Je veux dire, il n'y a pas
des
que le choix économique,
politiques.
Il y a des arbitrages. Une fois qu'on a décider qu'il y a une enveloppe attribuée à la justice, ça se fait pas comme ça, mais si on avait une enveloppe attribuée à la justice, au sein de la justice, il y a des choix à faire. Est-ce qu'on veut privilégier la prévention? Est-ce qu'on veut privilégier la réinsertion? Est-ce qu'on veut privilégier l'enfermement? Tout ça, ça amène à des choix différents. Et encore une fois, comment sortir de ça? Alors, si on est uniquement sur du coup à intenter, effectivement, on prend les chiffres que vous avez énoncés, 103, voire 150 € par jour dans une prison, et puis 10 € en bracelet électronique, c'est clair. Mais est-ce que la question ne peut pas être posée autrement? Quelle est la mesure la plus efficace pour éviter notamment que la personne récidive, pour
mais
qu'elle sorte de la logique de la délinquance?
Oui, mais Christian Moinat, là où il y a peut-être une ambiguïté, en tout cas peut-être une surprise, c'est qu'en réalité, la situation économiquement la moins chère est peut-être celle qui est aussi socialement la plus confortable. Alors c'est là peut-être la surprise, c'est-à-dire le milieu ouvert est aussi ce qui revient à l'heure actuelle le moins cher.
C'est vrai. Et alors c'est aux États-Unis où on a vu ce raisonnement-là, notamment à la suite des politiques très répressives qui ont été menées dans les années 80-90. On s'aperçoit maintenant qu'il y a des budgets en Californie ou dans d'autres États, des budgets attribués alors aux privés, aux pénitentiaires privés, qui explosent totalement. Et ça devient tellement cher qu'ils sont en train, pour des raisons libérales, de revenir dessus. Je pense qu'en France, on n'en est pas là. Il y a des choix idéologiques, hein, notamment cette popularité de la prison comme peine principale, comme peine de référence. C'est difficile de sortir le débat sur la lutte contre la délinquance de « il faut tous les mettre en prison ». On a quand même des personnels politiques, des syndicalistes policiers qui sont sur ce discours-là et qui le répètent sans arrêt. D'ailleurs, on l'a vu au moment de la loi Taubira de 2014, où les gens ont dit « on remet les prisonniers dehors, regardez, c'est le laxisme qui revient, etc. » Donc je ne pense pas que le politique se laisse entraîner uniquement par des considérations économiques, même si elles comptent. L'autre possibilité, c'est faire ce qu'on fait en France, c'est de faire rentrer encore plus de gens dans les prisons. C'est cette surpopulation. Et vous parliez d'établissements à 150, on a des établissements qui sont montés à 200-250% de taux d'incarcération de surpopulation.
Guillaume Fard, la question n'est pas simplement dans la prison ou hors des prisons, au sein même des prisons. La question de partenariat public-privé, en tout cas la délégation à certains prestataires privés, a posé des questions d'inégalité entre les prisonniers. Alors notamment, c'est le Royaume-Uni qui a été un peu précurseur en matière de privatisation de certains secteurs ou certaines missions du secteur pénitentiaire. Et le cas de la prison d'Oakwood, par exemple, a été un cas d'école. En la matière.
Parmi les inégalités, effectivement, c'est que dès l'instant où vous discriminez sur un plan tarifaire des niveaux de prestations, vous pouvez avoir des différences en termes de qualité de service qui est fourni.
Prenons un exemple, la télévision qui coûterait 8 euros par mois dans une prison publique et qui coûterait 18 euros par mois lorsqu'il y a un prestataire privé.
Exactement, ou lorsque les détenus essayent de ce qu'on appelle cantiner. Lorsque la gestion des cantines est confiée au secteur privé, il peut y avoir aussi des inégalités d'accès à ces cantines. Tout dépend de la nature du contrat qui lie l'opérateur privé à l'administration. Ces coûts font l'objet d'une négociation contractuelle entre l'administration et l'opérateur privé. Vous savez, l'opérateur privé, ce que lui il va chercher, c'est à rentabiliser l'investissement. Auquel il consent pour le compte de l'administration publique. Et donc, il va chercher qu'est-ce qui, en phase d'exécution du contrat, en phase d'exploitation, va lui permettre d'amortir au mieux l'investissement auquel il a consenti. Donc, il y a un certain nombre de missions sur lesquelles il va essayer de regagner de l'argent. La maintenance, bien sûr, le nettoyage, la gestion des cantines, la restauration, la blanchisserie. Enfin, tout dépend de ce qui lui est confié. Ça peut aller jusqu'à la formation professionnelle ou même, dans certains cas, l'accueil des familles.
Alors, il y a eu d'autres difficultés et inégalités qui ont été pointées du doigt, notamment à l'étranger. La question de la déterritorialisation, en tout cas de la réorganisation géographique des prisons. S'il faut remplir certaines prisons privées, alors ça a été le cas notamment aux États-Unis. Il peut y avoir des prisonniers qui se retrouvent enfermés très loin de l'État où se trouve leur famille, par exemple.
Pardon, c'est déjà le cas actuellement. Même, et vous parliez de disparité entre les établissements pénitentiaires, cette disparité, elle existe déjà quand on regarde uniquement les établissements publics. La cantine, il n'y a pas de prix national pour tel ou tel produit qui est vendu dans la prison. Donc, cette disparité existe déjà. Il y a des prisons où encore, jusqu'à une période récente, on avait encore des cellules collectives à 10 ou 15, il y a encore 5 ou 6 ans. Il y a des prisons où il y avait des toilettes que depuis une quinzaine d'années, enfin, ou une dizaine d'années. Et d'autres qui étaient un petit peu plus confortables ou moins inconfortables. Donc cette disparité, elle existe de toute façon. On peut pas opposer uniquement le public et le privé sur ces critères-là. On voit bien que la prison, l'hébergement, n'a pas été en France considéré comme un problème important depuis qu'on a fermé les quartiers de haute sécurité en 1981 et que l'idée de mettre tout le monde au même niveau en France a conduit à une chose qui est que même le détenu considéré comme non dangereux est incarcéré dans les mêmes conditions que l'ennemi public numéro un. Et donc il y a une pression très forte qui s'exerce sur lui.
For more than 30 years, we've put service at the center of everything we do. Working side by side with government, we serve people. We serve ideals. We serve the public good. We believe in building opportunity.
Alors ça, c'est une vidéo de promotion de Corps Civique, une entreprise américaine du secteur carcéral qui a été publiée le 28 octobre 2016. Alors si en France, ce sont plutôt des délégations partielles de secteurs qui ont été faites au privé, alors soit dans la construction, soit dans la délégation de certains services, aux États-Unis, il existe des prisons privées et il y a trois grosses entreprises qui détiennent le marché justement carcérales américains et qui font des promotions de leurs services.
Effectivement, bon, là on est arrivé à une forme presque extrême. Hein, on peut parler de privatisation, effectivement, contrairement à la France. Mais encore une fois, tout cela est la résultante d'une décision politique et d'un choix de société. La question à se poser, c'est une question éminemment politique, c'est souhaite-t-on aller jusqu'à cet extrême-là, c'est-à-dire que le secteur privé puisse assumer des missions de service qui sont des missions de service public aujourd'hui en France et qui consistent à gérer, administrer les établissements pénitentiaires.
Alors il faut expliquer peut-être le fonctionnement de ces entreprises, hein, ces entreprises qui sont bien évidemment cotées en bourse avec des chiffres d'affaires qui ont augmenté de 500% en 20 ans.
Oui, qui reversent des dividendes et qui recherchent une forme de profitabilité. Et c'est peut-être là un point très important. La philosophie du partenariat public-privé, en tout cas en droit français, c'est que le partenariat public-privé est d'abord un contrat de service. Très concrètement, ça veut dire que ce que met à disposition le partenaire privé, c'est un service, que si ce service est au rendez-vous, il percevra un loyer, et que si ce service n'est pas au rendez-vous, il sera frappé de pénalités financières. Ça, c'est l'esprit du montage contractuel. Après, en pratique, ce que l'on constate, c'est que les administrations publiques, quand elles négocient ces contrats-là avec les opérateurs privés, ne se font pas assez bien respecter.
Qu'il y a des vides juridiques, parce que les contrats laissent la place à certaines interprétations.
D'une part, parce qu'elles sont moins bien représentées, moins bien outillées sur le plan de l'ingénierie financière et du conseil juridique, mais pas que. Aussi parce que ce qu'elles recherchent avant tout, c'est investir le moins possible. Et qu'elles n'ont jamais, sauf à de rares exceptions que je souligne dans le livre pour le ministère de la Défense, demander aux opérateurs privés d'avoir aussi une logique qualitative et de regarder la qualité du service fourni. Ce qu'on demande d'abord aux partenaires privés, c'est de fournir un service qui est peu cher. Et donc comme il est peu cher, il est aussi très peu qualitatif. Et au final, ceux qui en bénéficient sont les premiers pénalisés. Et lorsqu'il s'agit de détenus, le corps social se mobilise assez peu, hélas, pour dénoncer des conditions d'incarcération qui ne seraient pas dignes.
Alors d'autant plus, Christian Moana, qu'il y a eu quand même plusieurs rapports qui ont pointé l'inefficacité de certaines prisons privées, justement parce qu'il y avait des coupes faites sur le personnel, un manque de moyens qui engendrait des problèmes relationnels aussi, et en réalité avec cette frontière poreuse entre les questions économiques et les questions sociales ou de conditions de travail.
Absolument, là effectivement ça nous oblige à ouvrir une autre partie qui est le droit du travail qui n'est pas appliqué dans ces prisons américaines. Et en France, les détenus, il y a du travail parfois pour les détenus. Il y a beaucoup plus de demandes de travail, d'ailleurs de détenus qui veulent travailler, que de travail proposé par l'administration pénitentiaire, parce que les entreprises privées qui s'adressent au milieu pénitentiaire hésitent parce que c'est pas souple, parce que la main-d'œuvre n'est pas qualifiée, etc. Mais on voit que les gens voudraient travailler parce que souvent on a des gens qui sont pauvres en prison, hein, ils cherchent à gagner de l'argent pour cantiner, pour survivre, pour donner de l'argent à leur famille. Donc on a ce problème du travail, là aussi c'est intéressant.
Ça sera l'objet de notre débat demain.
Voilà, et aux États-Unis on est dans un autre problème, c'est qu'on fait travailler les gens très bas et il y a des marchés. Ça rapporte aussi de l'argent économiquement en faisant travailler les détenus.
Alors qu'est-ce qu'on peut dire en France justement ? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas arrivé à une privatisation totale des prisons comme aux États-Unis ? Quelles sont les différences législatives, constitutionnelles ?
Il y a un attachement de toute façon des Français, il y a un poids politique et l'attachement des Français à un service public représenté encore par le fonctionnaire qui renvoie à toute cette image qu'on a du service public en France, avec à la fois ce rapport d'amour-haine, on le voit très bien à travers les grèves de cheminots, par exemple, actuellement.
Il y a eu aussi beaucoup de grèves de personnel des gardiens de prison.
Voilà, il y a beaucoup de grèves de personnel pénitentiaire, mais en fait, qui est impacté par ces grèves ? Essentiellement, les détenus et leurs familles. Donc, ça reste un public qui n'a pas tellement voix au chapitre. Donc, finalement, ça n'intéresse pas grand monde quand un surveillant pénitentiaire se met en grève.
Guillaume Fard, quels sont les garde-fous contre la privatisation totale des prisons en France ?
Alors, il y a des garde-fous juridiques. J'évoquais la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui dégage cette fameuse notion de prestation technique détachable. Alors, on peut le voir de deux manières. Soit lire cette jurisprudence comme le fait que certains services publics pourraient être démantelés. On peut aussi le lire avoir une lecture inverse qui consisterait à considérer que il existe un noyau dur et que ce noyau dur, exactement, par définition, est inattaquable. Et il est vrai que le Conseil constitutionnel, sur certains sujets, a pu repousser des assauts libéraux du législateur quand il a souhaité aller un peu trop loin dans la nature des services qui seraient délégués. Mais il faut quand même retenir une idée forte, qui est que personne ne contraint les administrations à avoir recours au secteur privé. Elles le font de leur plein gré. Elles ne signent pas les contrats avec une épée dans le dos. Donc, s'il y a un choix politique à un moment donné qui est fait d'aller vers le secteur privé, il appartient aux administrations de se faire respecter et d'exiger aussi des niveaux de qualité de service au moins équivalents, si ce n'est supérieurs, à ceux qui sont fournis par elles-mêmes. Et dans l'essai que j'ai écrit il y a 18 mois sur l'externalisation de la sécurité de la défense en France, il y a un cas assez emblématique du ministère des Armées, où le ministère des Armées a eu recours à un partenariat public-privé parce qu'il voulait qu'un opérateur privé lui fournisse des heures de vol d'hélicoptère. Bien, il s'est assis autour de la table avec les opérateurs privés, il leur a dit, écoutez, c'est très simple, moi je veux pouvoir acheter 22 000 heures de vol d'hélicoptère par an, si elles ne sont pas fournies, eh bien vous serez pénalisés. Et le secteur privé a accepté cela, et a accepté cette clause de pénalité. Et ensuite, s'est mis en ordre de marche pour avoir un service qui soit effectivement qualitatif. Donc, c'est aussi aux administrations de se battre pour que le service que fournissent les entreprises privées soit qualitatif. Elles en ont les moyens juridiques à elles de les appliquer.
Alors ces moyens juridiques, on pourrait imaginer qu'ils pourraient séparer aussi cette question économique des questions politiques, à savoir la question des alternatives, du bracelet électronique. Guillaume Farde, par exemple, pose la question de d'autres formes de peine, en tout cas déterritorialisées, qui ne seraient plus nécessairement purgées au sein d'établissements fermés.
Mais il est certain que dès l'instant où vous faites chuter le niveau général d'incarcération et que vous travaillez sur des peines alternatives et que la surpopulation carcérale décroît, vous n'êtes plus dans cet impératif de construction de nouveaux établissements pénitentiaires, et donc vous avez moins cette pression aussi de trouver des terrains, des investisseurs, et donc d'avoir recours à des financements privés pour accélérer les délais de construction d'établissements.
Christian Moina.
Oui, ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'on assiste quand même à une certaine fascination de la part de certains hauts fonctionnaires qui sont au poste de commandement pour le privé. On revient un peu là-dessus actuellement, mais durant toute une période, les directeurs de l'administration pénitentiaire étaient fascinés par l'efficacité du privé. L'idée quand même qui dominait chez certains d'entre eux était que le privé allait tout faire mieux, de manière plus efficace. Et d'ailleurs, on s'est assis sur un certain nombre de principes. Je pense notamment au fait d'avoir construit des prisons de plus en plus loin des centres-villes, alors même qu'on dit que l'administration pénitentiaire doit préserver les liens avec les familles. On a beaucoup de familles qui n'ont pas de moyens de déplacement, qui ne peuvent pas aller visiter les prisonniers. Vous parliez tout à l'heure de déplacement de prisonniers.
L'administration... Aux États-Unis, ça a été en tout cas un problème récurrent.
Mais en
d'un
France
état
aussi,
à l'autre.
Ça le devient très. Toutes les nouvelles prisons sont très éloignées des centres-villes, sont très difficiles d'accès.
Pour des raisons de coût de l'immobilier.
Voilà, et exactement. Et donc, on a toute cette pression qui se fait et qui fait qu'on s'assoit. Parce qu'il y a cette fascination pour le privé, qui d'ailleurs, le rapport de la Cour des comptes ou d'autres rapports est venu un peu éteindre cette lumière du privé magique, mais avec aussi des liens entre certains administrateurs et le privé, avec le fait que ça a un lien avec le pantouflage, ce qu'on peut retrouver dans d'autres secteurs de l'administration publique.
Donc au final, est-ce que c'est finalement, pour des questions peut-être un peu cyniques, de coût de l'immobilier, qu'on va revenir à des solutions autres, alternatives, d'ouverture de prison ou de semi-liberté?
Si on arrive à surmonter cette idée reçue en France que la prison, en tout cas pour les petites peines, qui sont les peines majoritaires, je le répète, c'est la meilleure solution. Ça demande un travail et on voit bien comment l'échec de la contrainte pénale décidée par Christiane Taubira en 2014 montre bien la crispation aussi bien de la société française que des policiers, mais aussi des magistrats sur cette question de la prison. La justice ne s'est pas emparée de solutions alternatives de manière massive. On continue à condamner, on continue, malgré le fait qu'il y ait toute cette surpopulation, tout ce qu'on a dit, les magistrats continuent à condamner à des peines de prison ferme.
Mais le débat a été réouvert.
Le débat a été réouvert, mais c'est un débat de longue haleine et les considérations économiques ne sont, je crois, pas primordiales là-dessus.
Et c'est l'heure des nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna Andrade.
Bonjour Maïlys, bonjour à tous.
Alors vous allez nous parler aujourd'hui d'un rapport qui relance l'idée de prison ouverte en France.
Effectivement, dans un texte porté par Yaël Braun-Pivet, présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale, on retrouve la préconisation évoquée auparavant par la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, de construire 18 centres pénitentiaires de réinsertion dont le niveau de sécurité serait allégé par rapport à une prison classique. Réservé aux détenus exemplaires et aux personnes condamnées à de courtes peines, cet espace ferait le pari, sur le modèle scandinave, d'une responsabilisation des détenus avec le droit de circuler librement pendant la journée dans des espaces spécialement conçus à cette fin. Ici, pas de barreaux aux fenêtres, de murs d'enceinte ni de miradors. Comme l'expliquent l'essayiste Gaspard Koenig et l'avocate Camille Potier dans un rapport également consacré à ce sujet, les mesures préventives ne reposent pas sur des obstacles matériels mais sur l'acceptation par les détenus des conditions de l'établissement et sur la possibilité d'avoir un travail rémunéré, une formation et de pratiquer une activité allant de la menuiserie au jardinage ou encore des cours universitaires.
Une solution relancée par la question de la surpopulation carcérale.
Effectivement, la création de tels espaces permettrait de développer les alternatives à la prison très peu utilisées en France. Ainsi, ce type de prison ouverte représente plus de 70% des établissements en Norvège contre à peine 1% en France. Camille Potier, toujours, explique qu'il faudrait réserver l'incarcération aux peines les plus graves. Or, le système judiciaire français a tendance à recourir systématiquement à la prison sans se donner les moyens de développer des peines alternatives. Résultat, plus de 70 600 détenus pour un parc carcéral d'à peine 60 000 places. Et dans certaines prisons, comme à Villepinte ou à Fresnes, le taux d'occupation atteint les 200%, une situation pour laquelle la France a été régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Et selon un article du Monde consacré à ce sujet, cette hausse du nombre de détenus s'explique quasi exclusivement par le recours à la détention provisoire et aux courtes peines. Une situation qui est pourtant à l'opposé des principes de la politique pénale et des lois en vigueur qui disposent que le recours à la détention provisoire doit rester l'exception. Aujourd'hui, seul un tiers des personnes en prison y entrent en tant que condamnées.
Ces prisons ouvertes pourraient donc représenter une solution pour désengorger les maisons d'arrêt.
Absolument. Le problème, c'est que la France a une conception très punitive du rôle de la prison et toute forme d'aménagement du modèle actuel risque d'être perçue comme une forme de laxisme. En réalité, Camille Potier et Gaspard Koenig expliquent que leur démarche vise avant tout à protéger les potentielles victimes puisque l'atout majeur de ces prisons réside dans leur capacité à réinsérer et resociabiliser les prisonniers. Ainsi, près de 60% des détenus libérés en France sont à nouveau condamnés dans les 5 années suivantes. C'est 3 fois moins pour les prisons ouvertes en Finlande qui ne comptent que 17% de récidives à leur sortie. Une réussite telle que l'administration pénitentiaire finlandaise envisage d'étendre ce système à la quasi-totalité des détenus. Un constat partagé par les inspections générales des services judiciaires et des affaires sociales et des finances en France, qui dans un rapport consacré au système carcéral français juge plus pressant que jamais le recours aux milieux ouverts. Les auteurs du rapport rappellent enfin que ces lieux de détention ouverts coûtent bien moins cher à construire et à entretenir que les prisons fermées, avec des coûts journaliers 2 fois plus faibles que le système carcéral classique. Un argument comptable, certes, qui pourrait toutefois avoir son importance tant la question budgétaire est brandie par les gouvernements successifs comme le critère impératif de leur incapacité à inventer un autre modèle.
De se voir séparé du monde, de ce sang tire à l'étroit comme dans une tombe cloîtrée. J'ai trop de mal à gérer l'angoisse que l'incarcération finit par générer. Je voudrais pouvoir m'évader, m'enfuir loin d'ici, ensevelir mes souvenirs et tuer le passé puis effacer, mettre de côté tout ce que j'ai vécu. C'est le plus difficile à faire, mais j'espère que cette période d'ombre aura fait la lumière sur ce que va devenir ma vie dans l'avenir, ce que je vais pouvoir faire dès que je vais sortir d'ici. La tête haute, mec, j'aurais payé ma dette. Je veux que l'on me respecte pas pour mes erreurs de parcours, mais pour mon utopique tentative de retour à une vie dite normale. Sachez que ça hante mes rêves et que pour moi c'est vital. J'en ai rêvé des tonnes et des tonnes de fois, mais est-ce la vie ou moi qui a décidé ça? La vie ou moi qui a décidé ça? La vie ou moi? La vie ou moi qui a décidé ça? La vie ou moi? La vie ou moi qui a décidé ça?
Trois calendriers bougé plus de nouveau les mêmes têtes pas réhabilité. C'était sphère, cela n'a pas du tout évolué. Ce parfum d'illusion de liberté qui gonfle en moi. Et là je crois que le monde m'ouvrira encore une fois ses bras.
Mais
irréconciliable avec la réalité face aux exigences de la liberté.
Est-ce la vie ou moi, NTM ? Merci Guillaume Fard et Christian Moinat d'avoir été parmi nous.
Merci.
Aujourd'hui, Guillaume Fard, du rappel, le titre de votre ouvrage, Externaliser la sécurité et la défense, un nouveau paradigme, le cas des partenariats publics-privés en France, et c'est publié aux éditions Hermann. Vous pouvez réécouter nos émissions et vous abonner au podcast d'Entendez-vous l'écho sur le site franceculture.fr. Vous pouvez aussi suivre nos programmes sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho. Demain, nous poursuivons notre semaine en parlant du travail en prison.
Mes repères, non, sur moi, plus rien n'a d'effet salutaire.
Mais est-ce la vie ou moi? Mais est-ce la vie ou moi qui a décidé ça? Mais est-ce la vie ou moi?